RFI, les 16h à Paris, 17h à Beyrouth. Bienvenue.
Mailleul de Charon.
Et à la une de ce journal, le Hezbollah a donc confirmé la mort de son chef Hassan Nasrallah. Israël l'avait annoncé ce matin au lendemain d'une frappe dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement. Le commandement du Hezbollah s'engage à poursuivre désormais le combat en soutien à Gaza et à la Palestine. En Ukraine, le bilan de la double frappe russe contre un hôpital à Soumy s'alourdit. Au moins 9 personnes sont mortes, 12 ont été blessées. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, réagit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis la salle de Bercy sera pleine ce soir. L'UFC, la plus grande organisation mondiale de MMA, revient à Paris pour la 3e année de suite. L'occasion de briller pour les combattants français qui restent sans star incontestée pour le moment. Le Hezbollah confirme donc la mort de son chef Hassan Nasrallah, secrétaire général du parti depuis 32 ans. Il est mort dans la frappe qui a visé hier une zone de la banlieue sud de Beyrouth. Frappe d'une très forte puissance qui a ciblé plusieurs immeubles dans une zone présentée par Israël comme le QG du mouvement. Le Hezbollah qui l'a donc annoncé dans un long communiqué à Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifet.
Le Sayyid, un titre donné par les chiites aux descendants du prophète Mohammed, a rejoint ses camarades martyrs tombés sur le chemin des justes et des imams, peut-on lire dans le texte. Il est mort après avoir dirigé la marche pendant 30 ans et conduit ses camarades d'une victoire à l'autre sur la route vers Jérusalem, poursuit le faire-part de décès. Le communiqué ne mentionne pas les circonstances de la mort de Hassan Nasrallah et ne donne pas de détails sur l'identité des autres morts qui feront sans doute l'objet de communiqués séparés. Il ne précise pas non plus la date et le lieu de la cérémonie funéraire. Le commandement du Hezbollah s'engage à poursuivre le combat en soutien à Gaza et à la Palestine et pour défendre le Liban et son peuple et se dit prêt à consentir tous les sacrifices jusqu'à la victoire. L'annonce officielle de la mort du secrétaire général du Hezbollah met fin à 20 heures d'incertitude et de doute pendant lesquelles les rumeurs les plus fantaisistes et les plus contradictoires ont circulé, plongeant la base populaire du parti dans l'incertitude. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et les bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth ont provoqué panique et sidération dans les rues de la capitale libanaise. Écoutez le témoignage de Gabriel Blondel, journaliste au quotidien L'Orient Le Jour, qui se trouve à Beyrouth. Il était l'invité sur notre antenne de Charlotte Desrouans à la mi-journée.
Depuis cette première frappe contre le QG du Hezbollah vers 18h30 jusqu'à 5h du matin, avec aussi donc le bourdonnement des drones qui n'arrêtent pas de passer autour de Beyrouth. Forcément, ça crée une situation de paranoïa et de panique. Aussi qu'on peut voir encore une fois des gens donc quitter avec précipitation Beyrouth et en prenant donc leurs voitures, leurs affaires, en les entassant à nouveau sur les toits de leurs voitures, parce que beaucoup de ces personnes-là qui dormaient déjà soit dans des écoles, soit dans des rues à Beyrouth avaient déjà fui en fait le Liban Sud ou la Beka qui avait donc été pilonné au début de la semaine par l'armée israélienne. Il y a eu des avertissements qui ont été publiés par les porte-parole de l'armée israélienne environ une heure et demie avant que les campagnes de frappe reprennent. Donc vous imaginez bien que les gens sont totalement sous le choc. On attend de voir la suite maintenant, car on se dit forcément qu'on n'est peut-être pas encore arrivé au bout de cette nouvelle séquence.
Gabriel Blondel, journaliste au quotidien L'Orient Le Jour. Et à la suite de l'annonce de la mort d'Hassan Nasrallah, le guide suprême iranien allié du Hezbollah, l'ayatollah Ali Khamenei, a été transféré dans un lieu sécurisé à l'intérieur du pays avec des mesures de sécurité renforcées. Vous pourrez retrouver toutes nos informations sur la situation sur notre live sur RFI.fr. RFI, il est 17h04 à Kiev, l'Ukraine, où le bilan s'alourdit après la double frappe russe contre un hôpital de Soumy dans le nord-est. 9 personnes ont été tuées, 12 blessées, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien. Une première attaque a tué une personne et endommagé plusieurs étages de l'hôpital, ce qui a entraîné son évacuation. Une deuxième explosion a ensuite touché les secouristes et policiers qui s'étaient rendus sur place. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un nouveau drame sur la route de l'Atlantique entre l'Afrique et l'Europe. Le naufrage d'un bateau de migrants a fait au moins 9 morts et 48 disparus la nuit dernière près des Canaries. Le bateau a chaviré au sud-est du port de La Estaca sur l'île d'El Hierro. C'est l'une des îles de l'archipel espagnol. C'est ce qu'annoncent les secours. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, agence de l'ONU, au moins 4857 personnes ont péri ou ont disparu sur cette route maritime depuis 2014. En Birmanie, une proposition de dialogue surprise de la junte a été rejetée par les différents groupes armés. La junte militaire birmane, engagée dans une guerre meurtrière depuis 3 ans et demi, a demandé à ces différents groupes qui contrôlent une large partie du territoire de cesser les combats et d'entamer des pourparlers de paix. Cette offre de l'armée birmane soutenue par la Chine s'inscrit dans un contexte très défavorable pour la junte. Bénédicte Braque est spécialiste de la Birmanie et chercheuse au CNRS. Pour elle, c'est cette situation qui a pu pousser la junte à effectuer cette tentative de dialogue.
Il y a plusieurs choses qui se sont passées récemment, notamment les essais de la junte de reprendre certaines villes clés qui étaient pour elle des lignes rouges de maintien minimum de son pouvoir sur les territoires birmans, sur le sol. Elle est en situation de faiblesse. Il y a eu par ailleurs les inondations. Ils ne sont pas capables de gérer la situation, ils sont obligés de demander de l'aide internationale et la junte essaye de proposer quelque chose qui puisse pousser les rebellions à arrêter le combat, mais en fait personne n'arrête le combat. Le but des rébellions, c'est que l'armée birmane quitte le pouvoir, ne se mêle plus de politique. Et ça, c'est un but de toutes les rébellions, s'il y a un point sur lequel elles s'accordent, c'est celui-là.
Des propos recueillis par Nicolas Roca. Au Népal, des inondations et des glissements de terrain ont tué au moins 59 personnes. 44 autres sont portées disparues. C'est ce qu'annonce la police face aux importantes précipitations qui ont commencé vendredi. Les autorités avaient mis en garde contre les crues soudaines possibles de plusieurs rivières. En France, 6 mois après l'inscription de l'IVG dans la Constitution, des rassemblements sont organisés cet après-midi à Paris, mais également dans plusieurs villes à l'occasion de la Journée internationale du droit à l'avortement, manifestation organisée pour réclamer des garanties au nouveau gouvernement de Michel Barnier. Le collectif national pour le droit des femmes réclame un accès à l'IVG sur tous les territoires, la garantie pour toutes du choix des méthodes et des mesures contre les activistes anti-IVG. RFI, il est 16h07 à Paris. Un mot de sport. L'UFC, la plus grande organisation mondiale de MMA, autrement dit les arts martiaux mixtes, revient à Paris pour la 3e année de suite. La salle de Bercy sera encore pleine ce soir malgré l'absence notable du porte-drapeau de la discipline en France, le poids lourd Cyril Gane. 9 combattants tricolores seront tout de même présents sur la carte ce soir, donc avec en tête Benoît Saint-Denis. Ni de belles promesses, mais pas encore de véritables stars bien établies chez les Français. L'occasion est donc belle pour le MMA tricolore à Paris de se chercher un second souffle. Sofiane Amazian.
Il y a beaucoup de combattants qui sont talentueux et déterminés en France.
À l'heure d'assurer la relève de Cyril Gane, le nouveau chouchou du public Benoît Saint-Denis est plutôt confiant. Questionné avant d'affronter le Brésilien Renato Moicano en combat principal de cette UFC Paris 3, le combattant de 28 ans est persuadé que les Français peuvent tirer leur épingle du jeu.
Là, on a une très belle carte avec des combats compétitifs, avec des enjeux pour beaucoup de combattants francophones, pour ces combattants français qui peuvent accéder à toujours mieux. Bah, c'est le succès de la discipline qui fait plaisir à voir. Et moi, je suis très heureux et privilégié d'avoir ce soutien de la part du public français en général.
Parmi les 9 athlètes engagés, Nassourdine Imavov, classé 4e dans la catégorie des moins de 84 kilos. Un succès sportif plutôt confidentiel en France. Alors qu'il se rapproche d'un combat pour le titre, celui que l'on surnomme le sniper, se devait de revenir à Paris 2 ans après.
J'avais déjà assez bien kiffé la première fois. Et c'est pour ça que j'ai envie de revivre ça voilà, je voulais absolument être sur la carte et je pense que ça va être incroyable.
Preuve de l'engouement pour tous ces combattants, 16 000 personnes ont garni en quelques heures l'aréna de Paris-Bercy.
Sofiane Amazian et puis l'Agence mondiale antidopage fait appel dans le dossier Yannick Sinner. L'AMA demande une période de suspension d'un à deux ans pour le joueur italien. Yannick Sinner qui se dit surpris et déçu. RFI 16h10 à Paris.